projection privée. Bonjour, cette émission est consacrée à Guy Debord. D'abord, à cause de cette grande exposition à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, qui se poursuit jusqu'au 13 juillet 2013, une exposition très, très importante. Et donc, j'ai invité évidemment le commissaire de cette exposition, Emmanuel Guy, qui, avec Laurence Lebras, est responsable. Il est également l'auteur d'un livre chez Actes Sud, La fabrique du cinéma de Guy Debord, avec Fabien Danessy et Fabrice Flahulès. Voilà. Et puis j'ai appelé à venir des Debordiens de toujours, c'est-à-dire Cécile Gilbert, qui a publié il y a 14-15 ans pour Guy Debord, donc chez Gallimard, dans la collection de Philippe Solers, L'Infini, de Solers lui-même étant un Debordien. Stéphane, Zach Dansky, l'auteur de Guy Debord contre le cinéma, un essai, mais aussi de Debord ou la diffraction du temps, paru chez Gallimard il y a 5 ans. Et puis Olivia Sayas, qui a écrit une lettre à Alice Debord. C'était une adolescence dans l'après-mai au cahier du cinéma, qui a donné naissance ensuite à votre dernier film, Olivia Sayas, qu'on a vu l'an dernier, dont vous étiez venu en parler ici même. Voilà, donc voilà quatre personnes qui vont discuter, peut-être ferrailler. Ça conviendrait à Guy Debord tout de même, parce qu'on ne va pas faire une émission à ce point consensuelle. Mais on peut être consensuel sur lui, mais ne pas avoir les mêmes raisons pour ce consensus. Voilà. Donc, d'abord, je voudrais commencer par une citation de Guy Debord de 1953, dans sa grande jeunesse. « Bien sûr, les auditeurs n'existent pas. C'est une illusion collective. » Comme Dieu quand il était à la mode. Alors, on trouve déjà le ton de Guy Debord. Et puis, donc, là, je m'adresse donc aux auditeurs pour leur dire qu'ils n'existent pas, mais que néanmoins, ils ne cessent pas d'écouter cette émission, j'espère, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, c'est une première chose que je voulais dire. Et puis, on va parler évidemment de Guy Debord et le cinéma, parce que c'est trop vaste si on commençait à parler de toutes les. La politique, l'idéologie, on en parlera aussi, bien sûr. Et moi, ce qui m'a frappé en visitant l'exposition, il y a des notes qu'il avait prises sur un projet du statut économique du lettriste de base. Et c'est écrit au début des années 50. Et voilà ce qu'il dit. Alors, il y a plusieurs choses pour le lettriste de base. Une chambre d'hôtel, capitale, évidemment, à Paris, bien entendu. Et puis 10 séances de cinéma par mois. Bon, donc là, je m'adresse donc déjà évidemment à Emmanuel Guy, mais aussi à Stéphane Zagdanski, pour qui Debord, comme tous les grands esprits de ce siècle, n'aimait pas, détestait le cinéma. Alors tout de même, 10 séances par mois, c'est un rejet curieux.
Non, c'est pas qu'il détestait le cinéma. C'était pas, il n'y avait pas de pathos à ce point-là. C'est quelqu'un qui a pensé le rôle du cinéma, entre autres choses, dans ce qu'il a appelé la société du spectacle. Donc, c'est une pensée qui traverse ses films aussi. C'est pour ça que ce sont des films merveilleux. Moi, je crois que, si vous voulez, pour aller droit au but, je me refuse à considérer le cinéma de Debord d'un point de vue seulement esthétique ou seulement cinéphilique. Il était, la phrase que vous venez de citer là maintenant montre qu'il était évidemment cinéphile quand il était très jeune. Mais tout le monde est cinéphile, mais tout le monde ne pense pas le cinéma. Et tout le monde ne pense pas le cinéma en faisant des films contre le cinéma. Contre le cinéma, je vous le rappelle, c'était le recueil de ses premiers scénarios, les premiers textes de ses films qui paraît très vite, avant In G-Room, avant les derniers films. Et je vous rappelle aussi, parce que ce sont des choses très importantes à comprendre, que les œuvres cinématographiques complètes de Guy Debord, c'est le titre, non pas d'un film, mais d'un livre. Donc, vous voyez, il faut envisager Debord. Moi, c'est pour ça que je trouve formidable. Et je parle du cinéma de Debord, hein, parce que vous avez raison, on pourrait parler pendant 50 heures de quasiment chacun des aspects de son œuvre et de sa pensée. Il faut envisager le cinéma de Debord comme brisant en deux tronçons l'histoire du cinéma. Il y a avant les films de Debord et après les films de Debord. Et je pense que quelqu'un de sérieux, qu'il soit cinéphile ou pas, qu'il soit cinéaste ou pas, ne peut plus envisager le cinéma de la même manière après avoir vu et médité le cinéma de Debord, et donc la pensée de Debord, et avant et après avoir vu les films de Bourne.
Moi, je veux bien nuancer ce que dit Stéphane. C'est-à-dire dans le sens où je suis en partie d'accord, mais j'étendrai cette réflexion aux autres arts. On pourrait en dire autant
bien
de la peinture, de la littérature et même pourquoi pas de la musique. Donc d'une certaine façon, c'est une démarche plus générale qui concerne le rapport à l'histoire de l'art ou à l'histoire des arts chez Debord. Donc, je suis d'accord aussi avec le fait qu'il y a une rupture dans l'histoire du cinéma, dans le cinéma de Debord, et je pense que cette rupture est relativement peu pensée, parce que au fond, très souvent, quand on pense le cinéma de Debord, on le pense isolé de l'histoire du cinéma, tandis qu'il faudrait évidemment l'inscrire dans l'histoire du cinéma, ça, etc. Mais on peut pas non plus complètement faire abstraction du fait que, synchrone des films de Debord, il y a aussi une rupture plus générale dans l'histoire du cinéma, hein, qui est que, alors, selon la perspective d'où on se place, c'est celle qui a été celle de la nouvelle vague en France. On peut aussi dire que c'est celle du cinéma expérimental new-yorkais, hein, que ce soit Mekas, Brakhage, Anger, Warhol, et ainsi de suite, qui, de part et d'autre de l'Atlantique, en tout cas, pratique une espèce de coupure au couteau dans l'histoire du cinéma, qui de fait sera bien différente le lendemain de cette cassure.
Là, c'est le point de vue cinéphile. C'est pas faux, mais c'est le point de vue cinéphilique là que vous.
Ah, pas du tout. Absolument. Non, parce que la cinéphilie, c'est deux choses différentes. L'histoire du cinéma et la cinéphilie sont deux choses distinctes. Si on les mélange.
Point de vue historique de l'histoire du cinéma. Moi, je voulais dire par là qu'on ne peut pas dissocier, séparer Le cinéma de Debord, de la pensée et des textes de Debord et de l'ensemble et de la vie même de Debord. C'est ça que je voulais dire.
C'est pas une nuance, mais cette césure dont vous parlez, Olivier, vous soulignez le fait que c'est un impensé du cinéma. Il y a une raison assez simple à cela, c'est que les films de Debord n'ont pas été vus. Hurlement en faveur de Sade a été vu par les 40 personnes à tout casser dans un ciné-club. Quant à Sur le passage de quelques personnes et Écrite de la séparation, il n'a tout simplement été pas vu, si ce n'est par son producteur Asger Jorn et quelques amis. Donc son absence relative dans l'histoire du cinéma, c'est impensé, il se justifie par ça aussi.
Moi je ne crois pas, mais
disons que maintenant ça fait 20 ans qu'on les a vus.
C'est Gilbert. Non, moi je crois que tous sont des films qui sont pensés contre le cinéma. Ils sont pensés. Ce sont des attaques, des critiques radicales.
Ça, c'est lors de la tautologie, Stéphane Zadansky.
Je serais plutôt de l'avis de Stéphane, c'est-à-dire que de même que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, le cinéma est un moyen de prolonger la critique sociale ou de faire de la critique sociale radicale chez Debord. Donc moi, c'est vrai que je n'ai jamais tellement envisagé du point de vue de l'histoire du cinéma, pour la bonne et simple raison que j'ai une expérience très simple et complètement empirique, c'est que quand j'avais 18-19 ans, je suis allé voir, de façon plus ou moins par hasard, un film de Debord au studio Cujas. Je ne savais pas qui était Debord, je n'avais jamais entendu parler de lui. J'ai vu dans un Pariscope film politique, et j'ai vu le titre de ce film qui était « Injiru Mimus Nocte Consumi Morigni », qui est un film de 78, et j'ai été complètement saisi par cette voix, c'est-à-dire cette parole, c'est-à-dire cette pensée. Et quand je suis sorti, effectivement, j'ai entendu dire des gens que ce n'était pas du cinéma. Et moi, je me suis dit, mais ça ressemble à un bon livre. C'est-à-dire que ce qui hante, en fait, dans tous les films de Debord, c'est cette voix, cette pensée. C'est très écrit, donc c'est pour ça que... Effectivement, cet art de la guerre dont il est question à la Bibliothèque nationale dans cette exposition, c'est un art de l'écriture et de la pensée.
Ce que vous dites là me semble l'un et l'autre parfaitement tautologique. Enfin, c'est ce que dit Debord dans ses films, c'est des films qui s'insèrent dans la politique.
Oui, mais ce sont aussi des films qui font la critique du cinéma ou de ce qu'a été majoritairement le destin du cinéma depuis l'invention par les Lumières. Et il a toujours dit qu'il aurait pu être autre chose, le cinéma. Il aurait pu être le film que je suis en train de faire. Mais la voie majoritaire qui a été prise par le cinéma, évidemment, c'est pas celle-là.
Oui, mais j'ai du mal à... Parce que, enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à parler en généralité. C'est-à-dire, j'aurais beaucoup de mal à parler de la littérature ou de la peinture dans des termes semblables. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le cinéma, il est complexe. C'est un champ dans lequel il existe des choses tout à fait majoritaires, des choses extraordinairement minoritaires et des choses encore plus minoritaires que Debord et encore plus invisibles. Certaines d'entre elles, peut-être intéressantes, on ne sait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est pas insulter l'art de Debord de dire qu'il s'exprime à travers une forme qu'on peut appeler cinéma, on peut lui donner un autre nom, etc. Mais enfin, dont on va dire qu'elle est juste matériellement distincte de celle de ses livres. Donc il utilise ce médium-là dans lequel il y a des images et il se sert de la force de ces images pour exprimer des idées qui sont les siennes et qui sont celles de la critique radicale, de la politique, et de l'art moderne, évidemment.
Moi, ce qui me semble intéressant tout de même, c'est de voir... Le rapport de Debord, j'ai commencé par ce moi de chaque lettriste, qui consiste à voir 10 films par mois, c'est qu'il y a dans son cinéma, y compris, ça on pourrait en parler, dans l'usage du détournement d'un certain nombre de films classiques, de Raoul Walsh, de Nicolas Ray, etc., il y a une forme de nostalgie, et de mélancolie et nostalgie mêlées, qui sont peut-être sur l'amour et le cinéma, qui sont deux thèmes qui sont traités avec mélancolie chez Debord, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est exactement de la génération de la grande cinéphilie, c'est-à-dire des années 50. Et que ce cinéma qu'il détourne plus tard, c'est celui qui l'a nourri. Et je pense pas que Debord a la même attitude à l'égard de l'avant-garde que quelqu'un comme Breton. Il n'est pas différent des surréalistes, c'est-à-dire qu'il ne majore pas l'avant-garde. Je vais faire de la peine à Assayas parce qu'il aime beaucoup Warhol, mais je ne pense pas que Debord, spontanément, aurait été voir les films de Warhol. Je pense qu'il préférait sans doute voir des films hollywoodiens, des films Les Enfants du Paradis, qui est également détourné, etc. Parce qu'il ne fétichise pas l'avant-garde. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas le cinéma, disons, commercial, etc., abominable, etc., et puis les quelques personnes qui sont très en avance sur leur temps. Il n'a pas cette conception. Et les surréalistes ne l'avaient pas non plus, même si, par ailleurs, le surréalisme était aussi un mouvement d'avant-garde.
Il fait quelque chose que peu d'êtres humains sont capables de faire, c'est-à-dire qu'il pense. Et il pense le cinéma. Et donc, il commence... Il est très, très jeune, il écrit une lettre très intéressante à Steglov. On est en 1953, il a donc 22 ans. Et il lui parle de quelques films qu'il a beaucoup aimés, dont Naissance d'une nation, de Griffith. Et il dit le type, concrètement, est à abattre, parce qu'il fait l'éloge du Ku Klux Klan, mais son
pas
film...
l'abattre, parce que sinon, il ne fera pas Intolérance.
Non, il était déjà mort. C'est pour dire, le film est raciste, mais c'est un chef-d'œuvre. Et il lui dit quelque chose d'autre qui est très important. Qu'il faut méditer pour comprendre ce que signifie le cinéma de Guy Debord. Il lui dit, il parle d'un film de Bresson, et lui dit Bresson est le premier et le seul. Il dit le film a peu d'intérêt. Je crois que c'est le je ne sais plus le journal
condamné à mort.
Non, je crois pas.
Journal d'un compagnie. Et il lui dit, il est le premier à avoir faiblement pressenti la suprématie de la parole sur l'image. Et là commence à naître vraiment la pensée de Debord, la pensée cinématographique ou la pensée tout court de Debord. Parce que, comme le dit Heidegger, c'est quelque chose qu'un commissaire ne peut pas bien comprendre, commissaire d'exposition, commissaire de police, c'est que tout se déploie ensemble. C'est une phrase de Heidegger. Et c'est, si vraiment quelqu'un, au XXe siècle, l'a manifesté et l'a démontré, c'est... Guy Debord.
Oui, Isidore Isou. Parce que
ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de pensée d'Isidore Isou qui traverse le siècle et qui pense le siècle.
Quand je dis tout se déploie ensemble, je veux dire la
pensée de Debord, elle est partout. Elle est dans son rapport à l'alcool. Elle est dans son rapport à l'amour. Elle est dans ses textes, évidemment. Elle est dans ses traductions.
Oui, mais
et elle est dans son cinéma. Mais en tant que pensée, pas en tant que film.
Je veux dire juste du point de vue de ce que Isou appelait le cinéma discrépant, c'est ce qui se passe quand il fait Traité de Bave et d'éternité. Que c'est quand même le point de départ d'une histoire du cinéma, si on veut, dans laquelle
Debord. Il a fait des films différents.
Oui, mais enfin,
il a été nourri par
cette question.
On peut laisser parler le commissaire, peut-être, qui plus que quiconque.
Qui est bon enfant,
essaie d'avoir une
qui brise de s'énerver. Les commissaires sont bon enfant, mais
essaie d'avoir une approche un peu totale, précisément de Debord, et c'est ce que j'essaie de faire dans l'exposition, et pas une approche ni tautologique ni essentialisante. D'abord, vous évoquez l'art de la guerre, Cécile Guilbert, qui est le cœur de notre exposition. Cet art de la guerre, il suppose quoi? Il suppose qu'il y a une période pour tout, et qu'on ne peut pas essentialiser le cinéma de Guy Debord. Il y a au moins trois périodes, Hurlement d'abord, puis les deux courts-métrages, et ensuite la Société du spectacle.
Il faudrait peut-être aussi décrire pour l'auditeur Hurlement, c'est-à-dire un écran noir, un écran blanc,
Hurlement, c'est
du silence.
Enfin. Hurlement, c'est ça, c'est plus qu'une bande, c'est un événement. C'est un film effectivement constitué d'écrans noirs et d'écrans blancs. Quand l'écran est blanc, des voix diverses résonnent, qui sont les détournements elles-mêmes. Quand l'écran est noir, on a du silence. Et le film se termine sur 24 minutes de silence. Alors, ces 24 minutes de silence, elles sont très théoriques. Puisque qu'est-ce qui se passe si vous mettez 40 personnes dans une salle de cinéma et que vous leur faites subir d'abord un film où alternent des écrans noirs, de silence, des écrans blancs avec des phrases sans vraie relation les unes avec les autres, en tout cas évidentes, et 24 minutes de silence, il se passe plein de choses. Les gens commencent à taper sur leurs chaises, à se jeter de la farine, à se cracher dessus. C'est ce qui se passe au moment de la projection d'Hurlement en faveur de Sade. Et c'est ce qui se passe, je crois, à chaque projection, c'est qu'on ne peut pas laisser un public tranquille. Donc voilà un film qui est un film événement, en fait, qui fait table rase de manière concomitante. Juste quelques mois plus tard, John Cage, de l'autre côté de l'Atlantique, fait 4 minutes 33, qui sont 4 minutes 33, effectivement, de science théorique, mais qui sont en fait 4 minutes 33 peuplées de présence, la présence d'un public.
Oui, 100 ans avant, Malevitch fait carré blanc sur fond blanc.
Oui, pas 100 ans, mais
c'est la référence. C'est la référence de Debord. De Debord.
30 ans avant, oui. Donc ce geste-là, il le réitère dans le cinéma, cette table rase-là. Et après cette table rase, il faut reconstruire un cinéma. Et c'est ce que c'est de faire Debord dans ses films. Les deux courts-métrages qu'on évoquait tout à l'heure, sur le passage de quelques personnes à travers une courte unité de temps, et Critique de la séparation, sont en quelque sorte des points d'étape. Le premier revient sur les années de jeunesse à Paris au début des années 50, et le second fait le constat d'un échec, de quelque chose à reprendre. Et donc il y a là un lien, par exemple, entre le cinéma et l'action d'avant-garde. Encore une fois, voilà, on ne peut pas essentialiser Debord. Ces films-là, ils ont une justification liée à un contexte très précis. C'est le moment du passage aux politiques de l'international situationniste, où Guy Debord, à travers le médium cinématographique, mais comme à travers d'autres médiums, comme la conférence ou les textes, fait le constat d'un premier échec de l'inscription dans le monde de l'avant-garde artistique avant de passer aux politiques.
Oui, disons que Critique de la séparation, la raison pour laquelle le film n'a pas été montré, c'est aussi parce que ça tombe exactement au moment où l'IS décide de rompre avec toute pratique artistique. Donc le film était à peine terminé, que déjà il était au fond... annulé enfin par Debord lui-même, et le film est resté dans ses boîtes jusqu'à ce qu'on le retrouve au moment de la restauration des films, littéralement.
Mais Cécile Guilbert, vous disiez que pour lui, le cinéma, c'est la continuation de la littérature par d'autres
moyens. Non, pas de la littérature, parce que
l'écriture.
Ce mot littérature, à mon avis, me semble pas très bien convenir, quoi, parce que la littérature, bon, c'est pas vraiment, c'est pas ce que fait Debord. C'est vrai que c'est un penseur, un critique radical.
Vous l'écrivez
de la critique sociale.
J'ai pris des notes. Hein. Le cinéma.
Oui, mais vous savez, justement, ce serait intéressant de parler de tout ça parce que c'est vrai que la réception de Debord, elle évolue beaucoup au cours du temps. Si vous voulez, moi, quand j'ai connu l'œuvre de Guy Debord, j'ai vu ce film. Et puis après, il y avait pas les œuvres publiées chez Gallimard. Il y avait pas tout ça. Moi, j'achetais les livres chez Champs Libres. C'est comme ça que j'ai lu le texte qui n'est pas le scénario, mais qui est le texte de Didier Roum. Après, j'ai lu Panégyrique quand il est sorti en librairie. Au moment où il est sorti en librairie, j'ai découvert un Debord beaucoup plus subjectif, plus avant-gardiste du tout. Cette voix qui parle à la première personne et qui, en fait, a un projet autobiographique aussi, d'une certaine façon, et qui revient sur une aventure dans le temps, sur une aventure à la fois politique, amoureuse, une passion, sur ses passions, sur qu'est-ce qu'a aimé à cet homme, comment il a vécu, etc. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je devais écrire sur Debord, après avoir revu ses films en DVD, après avoir pu saisir toute son œuvre, globalement, je n'aurais pas du tout écrit le même livre. Mais pour revenir à cette histoire de la littérature, bon, laissons tomber ce terme. Je ne sais plus quelle question vous posiez, mais...
Non, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? C'est-à-dire que, par exemple, évidemment, Stéphane Zaglansky, qui a écrit un livre d'une grande violence contre le cinéma en général, « La mort dans l'œil », chez Martin Selle, donc c'était un pamphlet. Vous, dans votre texte sur Debord contre le cinéma, vous dites que tous les grands esprits, pratiquement Proust, Faulkner, Joyce, Kafka, Nabokov, Artaud, détestaient le cinéma, ou étaient au moins, en tout cas, dédaignaient sans modération. C'est pas vrai, je veux dire, par exemple, Kafka, c'est pas vrai, il était fou de cinéma. Artaud, jusqu'à la naissance du parlant, a écrit des textes magnifiques sur le cinéma. Proust, ça veut dire quoi ? Le temps retrouvé, il y a une citation très intéressante que vous faites de Proust, où on montre que le cinéma, justement, ne sait pas capter ce que la littérature... Mais c'est en 1916, il n'avait certainement même pas vu le film tant admiré de Debord, qui est l'exemple d'une nation, il n'avait peut-être même pas vu de Chaplin. Qu'est-ce qu'aurait dit Proust devant The Servant ou devant Barry Lyndon ? On ne sait absolument pas que les plus grands esprits... D'abord, il y a des tas de grands esprits qui ont été passionnés par le cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Quand Debord dit, par exemple, que Hôtel des Invalides est un film magnifique, quand il admire Blinkity Blank de McLaren, ça veut dire que d'un seul coup, et le documentaire et l'animation interviennent dans ses goûts. Donc c'est pas du tout... C'est quelqu'un qui devait consommer du film, mais là j'aimerais savoir des gens qui peut-être savent plus de choses que moi sur Debord. Il me semble qu'il y a une sorte de nihilisme de surface, de table rase de surface, et qu'en fait c'est un homme qui prenait du plaisir au cinéma. Voilà, c'est...
Bernstein a des souvenirs très précis de nombreuses séances de cinéma, et ça, voilà, les gens qui ont connu Debord et qui ont une approche de lui qui est historique voient que tout au long de sa vie il y a une pratique du cinéma, l'amour de cet art cinématographique.
Je crois qu'il faut, commencer d'être un peu précis et maintenant citer les films de Debord, parce que ce sont des films qui sont citables. Tous les films ne le sont pas, les films de Debord le sont. Donc voilà pourquoi moi je vous explique pourquoi je crois que, je suis même persuadé, que le cinéma de Debord est un élément de la pensée de Debord. Et que si on l'envisage différemment, ou de manière séparée, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a pensé la séparation, la société du spectacle, c'est la société de la séparation, de tous et de chacun. c'est que si on sépare le cinéma de Debord de l'ensemble de sa pensée, à mon avis, on ne voit pas le cinéma de Debord.
Avec qui vous polémiquez là? Parce que qui au juste sépare le cinéma de Debord de l'œuvre de Debord?
Les auditeurs qui nous écoutent et qui n'existent pas, veulent entendre des phrases de Debord de
tirer son cinéma. Est-ce que vous dites parfaitement tautologique, Stéphane Zagdansky?
Arrêtez avec ce mot tautologique. Alors voilà ce que dit Debord. On va prendre deux, trois phrases de Debord tirées de ses films, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hurlement en faveur de Sade, 1953, est décrit par Debord comme une tentative de terrorisme cinématographique.
Certes.
Dans Hurlement en faveur de Sade, qui est un film qui est étrange parce qu'il s'appelle Hurlement, alors que, comme vous le savez, il est resté célèbre dans l'histoire des avant-gardes par ses longues plages de silence.
Il n'y avait que des hurlements dans la salle, c'est ça qu'il faut comprendre, les remettre dans leur contexte historique, voir à quoi ça ressemble.
Le cinéma est mort, dit Debord, dans le film. Il ne peut plus y avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat. C'était une conférence qu'il avait faite, qu'il remet dans le film. D'accord ? Donc, il y a une méditation, si vous voulez, dans toute l'œuvre de Debord, sur le discours comme décorum. Et c'est pour cela qu'il va passer sa vie, non seulement à critiquer le cinéma, pas seulement le cinéma, mais à critiquer ce que lui va appeler le spectacle, c'est-à-dire des discours qui sont tellement idéologisés que l'imbécilité devient, si vous voulez, le critérium absolu. Et qu'on peut dire tout et n'importe quoi, et qu'il n'y a plus moyen de vérifier ce qui est dit et ce qui n'est pas dit.
Donc, c'est n'importe quoi, là.
Donc, le cinéma est à détruire aussi, entend-on, sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps. Toute la fin de ce film, de ce court-métrage, est une critique radicale du cinéma. Tout le début du court-métrage suivant. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire, le cinéma est méchant et le non-cinéma est bon. Il s'agit de comprendre pourquoi Debord a fait cette critique du cinéma. En faisant des films aussi. Il a fait cette critique du cinéma, de l'histoire du cinéma global. Ce sont des choses, par exemple, que Godard n'a jamais faites. Godard s'inscrit dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de la cinéphilie de manière tout à fait talentueuse. Vous voyez, là, il ne s'agit pas de faire ni de hiérarchie, ni de jugement de valeur. Il s'agit de comprendre Debord, puisque c'est lui dont il s'agit, et que vous faites cette émission sur le cinéma de Guy Debord.
Godard, c'est pas une référence simple ni claire, parce que Godard est multiple. Godard est multiple, il y a à différentes périodes, et on peut en débattre, hein, mais je pense que quand même, Godard établit une rupture avec l'histoire du cinéma. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait quand même de ce qui se passe autour de Debord, au tournant des années 50-60, etc., qui est le cinéma pratiqué par les auteurs de la Nouvelle Vague n'est pas une continuation du cinéma classique. Ils admiraient ce cinéma classique, ils l'ont répertorié, ils l'ont mis en fiche, ils l'ont classé, ils ont fait tout ce que j'aime pas.
Chabrol et
Truffaut ont repris tout de même la tradition classique. On ne peut pas dire que le dernier Métro ou les films de Chabrol sont une rupture vraiment avec le cinéma. Godard, oui.
C'est des films qui s'inscrivent dans l'œuvre de cinéastes, mais là après ils évoluent, ils changent. Il y a des artistes qui vont et qui viennent entre la figuration et l'abstraction, c'est un autre débat. Simplement, il se trouve qu'à cette époque-là, il y a une rupture avec l'histoire du cinéma classique. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de droit d'inventaire, on va dire, d'une génération qui dit bon, ben voilà, maintenant il y a une coupure. Ils ne le disent pas comme ça, mais au fond, ils ont mon intuition. On commence une nouvelle histoire du cinéma, on récupère dans cette histoire-là des choses qui nous intéressent et on jette à la poubelle le reste. Donc, eux, ils font ça à l'échelle d'auteurs, de noms, de films, etc. Et Debord, lui, fait ça à l'échelle de fragments. C'est-à-dire, il dit, comme dans une bagnole accidentée, il dit moi, je récupère l'autoradio, je récupère les pneus, etc. Il dit dans Les Enfants du Paradis, Jean-Louis Barrault, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais par contre, Marcel Lérand à la SNER, ça, oui. Ça, il y a un truc qui se passe, et il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette manière de faire le tri dans un bric-à-brac qui est l'histoire du cinéma telle qu'on l'aperçoit à ce moment-là.
Alors, Stéphane Zagdansky a cité Debord, et maintenant, on va entendre la voix de Debord, cet extrait des enregistrements magnétiques parus chez Gallimard, qui ont été réalisés entre 52 et 61, des interventions de Debord. Vous savez que sa voix est très rare, sauf dans ses films, évidemment, puisque il fait le commentaire de ses films. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure un commentaire de la Société du Spectacle. Voilà, donc on va écouter cette voix de Debord.
C'est la voix de Guy Ernest Debord que vous entendez. Volman parlait. Bien sûr, la nuit tu rêves si tu pouvais toujours dormir, mais la vie menace. À chaque angle, il y a des flics et des indiques dans les bistrots. Les filles de ton âge sont marquées par la jeunesse. Ne quittez pas l'écoute. Vous allez entendre dans quelques instants un exposé clair de l'esthétique lettriste. Place Voltaire, place du commerce, nous connaissons tous les ponts, sans laisser de traces. Est-ce que vous connaissez la Hongrie ?
Alors, cette voix très,
très belle.
Très belle.
Très belle, oui. Très, très posée, très belle. Moi, je la décris comme une sorte de d'incendie froid, de flamme froide. Alors bon, oui, la question du cinéma de Debord, moi je reste focalisé sur cette idée-là, parce que je vous dis, c'est le thème de votre émission, donc c'est très important. Lorsque Debord dit le cinéma est à détruire aussi, il ne parle pas du tout du cinéma en tant qu'art seulement, il parle de la société. Il y avait des placards qui sont d'ailleurs très drôles, qui des sortes d'annonces publicitaires qui précédaient ces films, dont celui annonçant la société du spectacle, dans lequel il dit bientôt sur ses écrans... sera projeté le film La Société du Spectacle et ultérieurement sa destruction de la Société du Spectacle. C'est-à-dire que ce sont des actes
partout ailleurs.
Et voilà, ce sont des actes profondément politiques. Et alors le plus drôle de tous, mais qui a un sens aussi très profond, un sens quasiment mystique et théologique, c'est l'annonce qui a été faite pour In Jirum, le dernier film
au
cinéma où c'est Dieu qui est cité. Au moment, alors donc ouvrez les guillemets, c'est Dieu qui parle. Tout ça écrit par Debord évidemment et pensé par Debord. Au moment, et là on va voir l'humour de Debord, qui est aussi très important, le rire de Debord, qui est essentiel et qu'on voit bien dans ses films. Au moment de créer le monde, j'ai su que l'on y ferait un jour quelque chose d'aussi révoltant que le film de Guy Debord intitulé « In Jirum Imus Nocte et Consumimus Igni », de sorte que j'ai préféré ne pas créer le monde, signé Dieu.
Il y a une autre citation là, dans La Société du Spectacle, c'est un carton qui énonce, pour parler de l'ironie qui est fondamentale chez lui... C'est on pourrait reconnaître encore quelques valeurs cinématographiques à ce film, dit le carton au spectateur, si ce rythme se maintenait, et il ne se maintiendra pas. Voilà, donc c'est. Alors, oui. Cécile Guibert, oui, pardon.
Non, mais il y a là dans cette phrase-là une volonté de tirer le spectateur de sa torpeur, ou en tout cas de pointer la torpeur dans laquelle il peut se trouver en regardant La Société du Spectacle, par exemple, qui est une épreuve. Comme il va en faveur de Sade, c'est un film qu'il faut endurer. Voilà, c'est ce que je voulais simplement ajouter sur cet humour-là.
Cécile Guibert, vous qui avez découvert Debord avec ce palindrome qui est In Jirum, comment vous le voyez par rapport à la scène du spectacle ? Parce qu'on pourrait parler, Stéphane Zagdanski a raison, il faut parler aussi des films eux-mêmes. Cécile Guibert, comment vous voyez ces deux films ? Parce qu'il y a une évolution. La subjectivité intervient beaucoup plus dans
In Jirum. C'est vrai que la subjectivité intervient davantage, mais quand on regarde l'ensemble des films de Debord, c'est vrai qu'il y a quand même ce geste dadaïste du début qui est vraiment en faveur de Sade. Après, il y a ces deux courts-métrages. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le lien avec les livres et ce qu'il produit à l'époque... Parce qu'il y a un lien, par exemple, entre les mémoires, ces fameux mémoires qu'il écrit en 53, avec les structures portantes, et puis toutes ces phrases détournées qui sont d'une poésie intense. Il y a un lien entre ça et puis les courts-métrages. Mais je trouve que, évidemment, c'est pas que je trouve, j'enfonce une porte ouverte, c'est que In Jirum, c'est le même genre d'écriture, c'est exactement la même écriture cinématographique que La Société du Spectacle. C'est que là, il a trouvé, je dirais, sa formule, hein, pour parler comme Rameau. C'est-à-dire qu'il y a les images d'actualité. Il y a cette voix off qui est pas toujours, qui est parfois décalée effectivement par rapport à ce qu'on voit à l'image. Et puis après, il y a les détournements de toute une série de classiques. Et puis il y a toutes les phrases détournées à l'intérieur de cette voix off qu'on reconnaît ou pas. Et puis il y a des projections d'images fixes, des portraits. Bon, cette écriture-là,
des photos de lui,
de ses compagnons.
Il y a des citations de ses propres films. L'écran blanc est cité dans quasiment chacun
de
ses films.
Donc là, il a trouvé, je veux dire... In Jirum, c'est comme La Société du Spectacle, mais sauf que le propos se décale aussi. Mais enfin, il s'agit toujours aussi de dire ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé, et de continuer la critique de La Société du Spectacle, d'une certaine façon.
Oui,
je finis juste avec ça, c'est qu'après, quand il publie Panégyrique, c'est extrêmement intéressant, parce que la voix de Panégyrique 1 reprend quelque chose qu'on a vu dans ce film, et puis Panégyrique 2, qui a beaucoup d'images, en fait, fait écho... aussi au film. Donc il faut prendre tous ces rapports, dialectiques.
Olivier Assayas, vous qui avez fait chez Gaumont le coffret de 3 DVD, vous avez contribué, il y a un livret très passionnant aussi, des œuvres cinématographiques complètes. Justement, comment vous voyez ces deux longs-métrages, puisqu'en fait, il y a 3 courts-métrages et 2 longs-métrages. Oui. Comment vous voyez ces deux longs-métrages qui ont marqué La Société du Spectacle et In Jirum ?
Moi, je les verrais un tout petit peu différemment. C'est-à-dire que déjà, Hurlement en faveur de... Mémoire, je le mettrais plutôt en relation avec Hurlement en faveur de Sade. pas tant avec les courts-métrages. Non, parce qu'en fait, il s'est fabriqué de la même manière, au fond. Il y a des citations qui viennent littéralement de mémoire, ou vice-versa, dans Hurlement, Fever, etc. Enfin, il y a la même pratique du collage, en tout cas, très semblable. Alors, moi, j'ai un rapport un petit peu différent, en fait, avec la Société du spectacle, In Jerum Imus Nocte, parce que mon rapport au livre est inverse. C'est-à-dire où j'ai vu le film en salle, quand il est sorti, la Société du spectacle. Ensuite, j'y ai honnêtement pas compris grand-chose. J'ai été dans un état de sidération et d'admiration, parce que je voyais qu'il y avait quelque chose dans ce que je retenais ou dans ce que je saisissais très jeune, à peine adolescent, de la pensée de Debord. Et donc, au fond, ça m'a amené au livre. Et c'est le livre, je l'ai lu, je l'ai annoté, ça c'est devenu une espèce de livre de chevet dans les années qui ont suivi. Mais ça a été déclenché par le film, disons. Et donc, au fond, pour moi, il ne s'agit pas tant de l'émotion esthétique, encore qu'il y avait quelque chose de fascinant dans la matière visuelle de ce film. Et au fond, j'ai presque envie de dire que même avec le recul, c'est ce qui m'en reste. C'était Stéphane Zagdanski m'en voudra beaucoup, mais c'est vrai. Et par contre, In Jerum Imus Nocte, c'est parfaitement l'inverse. C'est-à-dire que je crois que quand le film est sorti en salle, j'étais imprégné de la pensée de Debord, etc. Et en particulier, j'avais évidemment dévoré les œuvres cinématographiques complètes qui avaient été publiées un an avant, si je ne me trompe pas, où j'ai découvert les textes de Sur le passage et de Critique de la séparation, qui étaient deux films qui étaient inaccessibles à ce moment-là, dont j'ignorais même l'existence. Et donc, au fond, quand j'ai découvert In Jerum Imus Nocte, je le connaissais déjà. J'en entendais la musique. Enfin, c'était comme... j'avais déjà écouté le disque, quoi, pour parler de cette question de la voix. Alors moi, bon, à tort ou à raison, je vois les choses de la façon suivante. C'est-à-dire que pour moi, le In Jerum Imus Nocte est un des moments clés de l'œuvre de Debord, parce que s'y opère quelque chose qui est... qu'on le veuille ou non, le retour au je, c'est-à-dire au milieu de In Jerum Imus Nocte, qui marque aussi de ce point de vue quelque chose qui a à voir avec la fin de l'IS et avec la fin peut-être d'une partie de la réflexion politique de Debord, tout d'un coup commence autre chose qui est un style, qui est une écriture, on va dire, qui a une ampleur et qui devient presque élégiaque, enfin quelquefois, qui ouvre la porte à des textes comme panégyrique. C'est-à-dire que je crois que dans le, on voit littéralement dans ce film, In Jerum, etc., il y a quelque chose qui se déploie, qui est la littérature, qui est une nouvelle dimension de l'œuvre littéraire de Debord.
En même temps, il faut dire aussi que In Jerum, c'est dans une deuxième partie de la vie de Debord où il n'est plus dans un groupe, il est dans une grande solitude, je pense. Alors, Emmanuel.
Pour revenir à cette question du jeu qui émerge, la graine est plantée dès la Société du spectacle et on va pouvoir parler ainsi du détournement de manière précise. Par rapport à l'utilisation qui est faite des pin-up, par exemple. Et il y a dans le fond, le monde dans l'exposition, une quantité d'images très impressionnantes découpées dans des magazines, lui, Marie-Claire, Madame Fouineuse, Paris Match, des choses comme ça. Ces pin-up, à quoi servent-elles? Guy Debord réfléchit longtemps à travers des fiches annotées manuscritement à l'usage qu'il va pouvoir en faire. D'abord, bien sûr, elles peuvent exprimer les étalages de marchandises. Hein, donc on parle de marchandises au monde des pin-up. Elles présentent bien sûr la réification du corps féminin, l'utilisation du corps féminin comme une marchandise, etc. Mais ces pin-up, on a un dossier qui est assez intéressant. Donc, on a des dossiers les filles et marchandises, filles toutes nues, filles en bikini, et on a un dossier qui s'appelle filles, la vie réelle. Et il y a une autre très intéressante de Guy Debord à ce sujet. On en parle dans l'expo et dans le livre d'actes suite également. Debord se dit voilà, ces pin-up là, le spectacle, qu'est-ce qu'il nous a arraché avec ces pin-up? Il nous a arraché l'amour, la beauté des corps, la sensualité. Le spectacle nous l'a volé. Qu'est-ce qu'on va faire? Essayer de le lui reprendre. Et le détournement, ça consiste à ça, à exproprier les expropriateurs. Et donc Debord va essayer de parler de l'amour vrai, de l'amour qui nous a été dérobé à travers la pin-up. Et on a effectivement une séquence dans la Société du spectacle où Debord parle de la vie qui se perd mais qu'on peut-être récupérer, enfin rattraper en quelque sorte. Et on voit des filles, des pin-up encore une fois, légèrement différentes de celles qui parcourent le reste du film. Et au milieu, comme une image subliminale, Alice Debord, son visage, à qui le film est dédié par ailleurs, et la séquence inaugurale sur la musique de Michel Corrette présente Alice Debord. Et là, tout d'un coup, au cœur du spectacle, alors qu'il présente des pin-ups tout au long du film, on a une dialectique du bikini, si vous voulez, qui se met en route. C'est que tout d'un coup, les filles qu'on présentait pour critiquer la réification, pour critiquer le spectacle, elles vont servir, on va essayer d'arracher au spectacle ces filles pour parler de l'amour. Et c'est l'apparition d'Alice qui est tout d'un coup le jeu qui est susurré en quelque sorte dans ce film, la Société du spectacle. Alors, est-ce que le procédé est réussi? Lucie ou non, c'est une autre question. Mais il y a un danger immense. Vous laissez terminer, s'il vous plaît, Stéphane Gabanski. Je vous remercie.
Vous oubliez quelque chose d'essentiel.
Ah non, vous ne me laisserez pas terminer. Non,
laissez terminer.
Non, je vous en prie, allez-y.
Vous oubliez évidemment que le film, vous l'avez dit, est dédié à Alice Debord, avec une photo d'Alice Debord et une citation de Hegel sur l'amour.
Oui.
C'est beaucoup plus importante que les petites manipulations de pin-up, etc., qui sont intégralement spectaculaires et qui n'ont aucun intérêt.
Mais
pour Debord lui-même. Il parle d'une poussière d'image.
Si vous étiez venu voir les archives Stéphane Zagdanski, vous auriez vu que Guy Debord...
La phrase de Hegel, il faut citer les choses, il faut citer les phrases. C'est comme ça qu'on pense. La phrase de Hegel évoque l'amour en disant que c'est le seul moment dialectique où le vivant rencontre le vivant. Et pour Debord, le vivant, ce n'est pas une image de pin-up. Ce n'est pas une image publicitaire.
Mais vous vous trompez.
Ce n'est pas le public du cinéma. Tous les films de Debord insultent carrément le public du cinéma. Il les appelle des brouteurs d'images. Et d'une certaine manière, c'est pareil pour les expositions officielles. Les gens qui viennent brouter des images dans une exposition ou dans un film ne sont pas des gens qui pensent.
Et les livres qu'on publie chez Gallimard, est-ce que c'est différent, Stéphane Zadansky?
Oui, la pensée, c'est différent. La pensée est invisible, comme vous ne le sauriez pas.
Non, mais votre pavé, là, c'est à peu près la même chose que mon exposition.
C'est pas un pavé, c'est un texte.
C'est vrai qu'il n'est pas si épais que ça.
Un texte, c'est fait avec des phrases, voyez-vous. Et non, c'est très différent de l'exposition, parce que moi, je ne suis pas commissaire. Voilà. Et c'est parce que je ne suis pas commissaire que mon livre est invisible dans votre exposition. Et que le livre de Cécile Gilbert n'apparaît pas dans votre exposition. Vous l'avez boycotté, vous voyez.
Monsieur, je voudrais simplement noter une chose, c'est que Stéphane Zadansky a envoyé. Zagdanski a envoyé à. Aux abonnés de son site web, une phrase qui montre assez pourquoi est-ce qu'il est aussi agressif aujourd'hui, c'est que Stéphane Zadansky n'a pas été cité dans le catalogue d'exposition. Et visiblement, il nous en tient rigueur.
Pas du tout. Pourquoi mes livres sont cités dans les catalogues?
Alors, vous envoyez donc, depuis votre site Parole des Jours, le 16 avril, Debord, la diffraction du temps, a beau s'être rendu invisible dans le catalogue de l'exposition BNF, conformément à une citation de l'Iliade que note Debord sur l'affiche, il s'avance redoutable comme la nuit, n'y était cité ni même référencé. Parole des jours, vous-même donc, rend le bien pour le mal en diffusant invisiblement un inédit de Guy Debord reproduit à la fin du dit catalogue.
Oui.
Je crois qu'on trouve là une explication assez claire à l'agressivité dont vous faites preuve depuis tout à l'heure.
C'est vrai qu'il y a quelque chose d'ironique dans le fait que le plus grand éditeur français de Claudel, de Proust, de Gide, accueille pratiquement tous les livres dont on parle aujourd'hui sur Guy Debord sont publiés par Gallimard, que la Bibliothèque nationale de France fasse cette grande exposition et qu'il est même qualifié, je ne connaissais pas l'expression, c'est la première fois que je l'entends, de trésor national, ce qui me semblait purement japonais jusqu'à maintenant. On disait que Ozu était un trésor national.
Vivant,
que,
mais c'est des trésors nationaux vivants.
Voilà. Ouais. Donc là, Guy Debord, c'est... Alors, je sais qu'il n'était pas... Il est, vous êtes d'ailleurs son prophète, parce que Guy Debord considérait que ses films, c'était les plus grands films jamais réalisés. Vous dites la même chose, c'est-à-dire qu'il y a tout de même une sorte... Et ça, c'est très intéressant sur la personnalité de Debord, c'est cette exaltation permanente de lui-même, que ce qu'il a fait, c'est inouï, que personne dans l'histoire ne l'a jamais fait, que... Il prenait aussi, alors ce qui est très passionnant, c'est le soin maniaque qu'il a et l'importance qu'il accordait aux critiques. Parce que je veux dire, il a fait tout de même 3 livres consacrés entièrement à une recension avec des immenses citations de tous les gens qui n'ont pas aimé ou qui n'ont pas assez aimé ou mal aimé.
C'est le plaisir aristocratique de déplaire. Mais on pourrait parler de cette jouissance, parce qu'il y a quand même une jouissance chez Debord à être effectivement universellement détesté.
Voilà.
Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il a érigé des dispositifs rhétoriques défensifs en disqualifiant d'avance tout ce qui pourra être dit sur lui et sur ce qu'il a fait, qu'on ne peut évidemment rien faire autour de lui. Et sinon, cette pensée tomberait complètement à la trappe. C'est pas la question, si vous voulez. Mais bien sûr qu'il a tout disqualifié d'avance. Ceci étant, bon, moi je sais que j'ai été très critiqué au moment où j'ai publié mon livre, parce que j'ai parlé d'un dandisme de Debord. C'est vrai qu'à l'époque où il a fait La Société du spectacle, en film, je parle, il a dit qu'il n'y avait pas de dandisme chez lui. Mais excusez-moi, ce que montre pas l'exposition, ou très peu, et j'en ai déjà parlé avec Emmanuel, c'est que entre 72, la dissolution de l'IS, et son suicide, il se passe quand même plus de 20 ans où il fait des choses considérables, et la portion dans cette exposition réservée à cette partie de sa vie est complètement réduite. Et le fait qu'on n'évoque pas les commentaires sur La Société du spectacle, c'est scandaleux.
J'ai déjà répondu, Sylvie Berry.
Oui, mais
j'aimerais, c'est qu'on revienne. Je comprends.
Au brouteur d'image.
Non, mais je prends les deux titres. Un court-métrage, réfutation de tous les jugements tant élogieux qu'hostiles qui ont été jusqu'ici portés sur le film La Société du spectacle. Et ensuite un livre, ordures et décombres déballés à la sortie du film Ingirum, Imus Nocte et Consumimur Igni. Bon. C'est tout de même assez unique de voir quelqu'un attacher autant d'importance pour y consacrer un film et un livre et recensé, y compris des articles parfois remarquables. Il y a un texte de Louis Seguin dans la Quinzaine littéraire qui est très remarquable. Il considère que c'est des ordures et des combres. D'où vient, expliquez-moi, vous qui êtes des Debordiens plus que moi, comment vous expliquez cette obsession de répondre à chaque attaque ou même à chaque éloge qui lui a été fait?
Non, c'est, disons que ordure et décombre, c'est un acte esthétique très fort. Okay, parce que c'est parce qu'il fait, d'abord il ne répond pas.
Non, il ne répond pas.
Il fait pas et il ne fait pas le tri.
Donc
au fond, il dit voilà le film. Voilà le film, et face à la postérité, voilà comment ce film a été vu. Et c'est vrai qu'on lit Ordures et décombres aujourd'hui, il y a des moments où on éclate de rire, parce que c'est la totalité, enfin l'essentiel, l'immense majorité de ce qui a été écrit à quelques phrases qui doivent surnager ici ou là, enfin ne passe parfaitement à côté du film. Et c'est vrai que c'était frappant. À l'époque, moi j'écrivais au Cahier du cinéma quand le film est sorti. Et il y a un article qui a été publié, qui a été repris dans Ordures et décombres, écrit par Pascal Bonitzer, qui n'était pas un article qui, à mon sens, rendait justice au film, loin de là. Mais c'est vrai que j'étais impressionné à quel point des gens qui étaient des essayistes, qui écrivaient, qui pensaient le cinéma, et qui pensaient le cinéma dans sa radicalité, ne voyaient absolument pas ce qui était en jeu, ce qui se produisait à l'intérieur du cinéma de Debord. Et je me souviens qu'à l'époque, on a été, si je ne me trompe pas, deux à la fin de l'année à dire il y a l'un des films les plus importants de cette année, sans doute le plus important. C'est la même année que L'Argent de Bresson et que L'Enfant secret de Garrel, qui sont deux films que je mets extrêmement haut. Enfin, je veux dire, moi, mon amour de Debord n'est pas exclusif de mon amour pour les choses importantes du cinéma. Mais enfin, néanmoins, on a été Serge Danet et moi les deux seuls à la fin de l'année, à juste dire,
à mentionner,
il s'est passé quelque chose dans le cinéma, c'est oui, ce film-là.
Vous pouvez pas être en désaccord, Stéphane
Zagdanski. Non, pas du tout. Je suis pas du tout en désaccord. Il y a deux choses qu'il faut dire et qui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles Debord accordait une forme d'importance à ce qui se disait sur lui. Premièrement, c'est un génie. C'est quelqu'un qui se considère.
C'est la même chose.
C'est un génie au sens propre, voilà. C'est un mot qui est très galvaudé, le mot génie. Et que...
Ah, si vous n'étiez pas là, Stéphane Zagdanski, on ne
comprendrait rien. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui considère que sa pensée va passer à la postérité. Et que donc, que tout ce qu'il concerne, que ce soit en bien ou en mal, prend une forme d'importance par rapport à lui. Deuxième chose très importante qu'il faut comprendre aussi, et ce qu'a dit Cécile est essentiel. Debord, c'est quelqu'un, parce qu'il faudrait, on n'a pas beaucoup de temps maintenant de le faire, mais il faudrait venir sur des points précis de sa pensée, de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une exposition Debord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de la publicité? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a Internet, etc.? Ça, les commentaires sur la Société du spectacle, qui paraissent en 1988, donc hier seulement, sont essentiels. Ici, ils sont transformés en images, c'est-à-dire derrière une vitrine, alors que c'est un texte, un livre. L'un des livres les plus puissants écrits sur le XXe siècle et le XXIe siècle, et s'ils sont transformés en simple image par les commissaires d'exposition, c'est pas un hasard. C'est un acte profondément anti-debordien, vous voyez. Et c'est pas un hasard non plus. Le livre de Cécile et le mien sont invisibles dans cette exposition.
Emmanuel Guy, anti-debordien.
Oui, mais... Par rapport à Ordures et décombres, il y a un dispositif stratégique aussi là-dedans. C'est bien sûr discréditer l'adversaire, mais aussi d'une certaine manière être l'archiviste de soi-même. C'est-à-dire récolter avant que les chercheurs le fassent, si vous voulez, tout ce qui aurait été dit sur son film. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une démarche de Debord qui vise à être l'archiviste de lui-même à travers des dépôts d'archives à la bibliothèque situationniste de Silkeborg, à l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam, la publication de ses ouvrages chez des auteurs reconnus. Et donc, c'est pour ça que l'entrée des archives Debord à la BNF, c'est quelque chose de comment vous dire, qui est dans la continuité de tout ça. Debord met à la disposition de lecteurs ses archives pour qu'ils viennent, comme vous le dites si souvent, Zagdanski, penser. Nous ne vous avons pas vu dans les archives, et ça vous aurait pourtant aidé, je pense, à penser Debord un peu mieux et à le comprendre. Et à penser aussi le contemporain. Et donc, l'exposition, qu'est-ce que c'est pour nous? Une manière de prolonger... De prolonger ce travail sur l'archive. On reçoit beaucoup de chercheurs tous les jours, Laurence Lebras et moi-même, qui viennent travailler sur le fond. Et l'exposition sert à quoi? À introduire à Debord. On ne prétend pas le faire comprendre de bout en bout. Il s'agit simplement d'inciter à lire Debord. Et à mon avis, il vaut mieux lire Debord que lire votre livre. C'était pas ça, Tonski.
Cécile Guilbert.
Je pense que dans cette démarche qui consiste à reprendre toutes les recensions critiques le concernant, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pertinentes ou pas, qu'il a fait avec Ordures et décombres et les réfutations, et cette mauvaise réputation qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi un livre qu'il a publié avec toutes sortes de jugements portés sur lui, il y a une obsession. Enfin, d'abord, il se crée une position qui est tout à fait singulière et unique dans le champ de la pensée là et de l'art, c'est-à-dire que il se crée un point où il est inatteignable d'une certaine façon, et en même temps ce point inatteignable c'est celui de ce qu'il avait d'ailleurs dit lui-même, étant très rare de nos jours, c'est-à-dire une notoriété antispectaculaire. C'est-à-dire que c'est sans doute le seul individu qui, par cette position de retrait, et qui en même temps... il existe, il est là quand même, parce que vous savez bien, ce qui n'apparaît pas dans les médias n'existe pas. Il est à la fois là médiatiquement, mais en même temps, il s'en retire, et qu'on dise du bien ou du mal de lui, de toute façon, tout est récusé, donc il se crée une position inexpugnable. Ça, c'est complètement singulier. Stratégiquement, c'est génial.
Absolument.
Mais je pense que c'est pour ça que c'est un grand stratège.
Oui. Il l'a pas fait pour ça. Il l'a pas fait.
Pas
pour...
seulement pour ça, mais ça crée ça au bout du compte.
Il s'est pas fait rare pour être d'autant plus.
Non, c'est pas qu'il s'est fait rare, c'est que en récusant tout ce qu'on dit de lui, il est à la fois là, mais pas là. C'est une position qui est très intéressante.
Je pense que surtout, il considère que sa vie fait partie de son œuvre. Que chaque acte doit être inscrit dans une pensée stratégique qui est celle d'une totalité qui est son œuvre. Et donc, au fond, il protège la pureté ou la clarté, éventuellement, de la façon dont il souhaite agir ou s'exprimer. Et c'est lui, selon une chronologie et selon une progression, qui est celle qu'il a déterminée lui-même.
Et sans aucun compromis, raison pour laquelle aussi, chose que j'ai toujours trouvée fascinante, il publie les contrats.
Non. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi par là, c'est peut-être, alors moi, je suis peut-être aussi, c'est pour ça que je suis un peu, de ce point de vue-là, à côté du débat, c'est-à-dire, je pense qu'il y a Debord et il y a le Debord posthume. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de ligne qui s'établit, avec la mort de Debord. L'absolue radicalité, l'espèce d'astre noir de radicalité que Debord n'a jamais cessé d'être, à aucun instant, toujours à l'endroit où il faut être, ou au moment où il faut l'être, etc. Et c'est quelque chose qui, évidemment, ne peut pas se prolonger, ou en tout cas change sérieusement de nature après sa disparition. Donc, et à partir de là, il y a une série de procédures, de dispositifs que Debord lui-même à disposer, en particulier celui de la pérennité de son œuvre, en se disant, bon, quel est l'éditeur qui a le plus de chances d'être là d'ici un siècle, plutôt Gallimard qu'un autre. Donc, c'est à Gallimard qu'on remet l'œuvre.
Pour terminer, on va écouter la voix de Debord dans La Société du spectacle.
La théorie critique doit se communiquer dans son propre langage. C'est le langage de la contradiction, qui doit être dialectique dans sa forme comme il l'est dans son contenu. Il est critique de la totalité et critique historique. Il n'est pas un degré zéro de l'écriture, mais son renversement. Il n'est pas une négation du style, mais le style de la négation. Dans son style même, l'exposé de la théorie dialectique est un scandale et une abomination selon les règles du langage dominant et pour le goût qu'elles ont éduqué, parce que, dans l'emploi positif des concepts existants, il inclut du même coup l'intelligence de leur fluidité retrouvée, de leur destruction nécessaire. Ce style qui contient sa propre critique doit exprimer la domination de la critique présente sur tout son passé. Par lui, le mode d'exposition de la théorie dialectique témoigne de l'esprit négatif qui est en elle. La vérité n'est pas comme le produit dans lequel on ne trouve plus de traces de l'outil. Cette conscience théorique du mouvement, dans laquelle la trace même du mouvement doit être présente, se manifeste par le renversement des relations établies entre les concepts et par le détournement de toutes les acquisitions de la critique antérieure. Dans son style même, l'exposé de la théorie dialectique est un scandale et une abomination selon les règles du langage dominant et pour le goût qu'elles ont éduqué, parce que, dans l'emploi positif des concepts existants, il inclut du même coup l'intelligence de leur fluidité retrouvée, de leur destruction nécessaire. Ce style qui contient sa propre critique doit exprimer la domination de la critique présente sur tout son passé. Par lui, le mode d'exposition de la théorie dialectique témoigne de l'esprit négatif qui est en elle. La vérité n'est pas comme le produit dans lequel on ne trouve plus de traces de l'outil. Cette conscience théorique du mouvement, dans laquelle la trace même du mouvement doit être présente, se manifeste par le renversement des relations établies entre les concepts et par le détournement de toutes les acquisitions de la critique antérieure. Les idées s'améliorent. Le sens des mots y participe. Le plagiat est nécessaire. Le progrès l'implique. Il sert de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste.
Voilà, donc merci à vous quatre. Donc, d'abord, je voudrais mentionner la correspondance de Debord. 8 volumes, alors là, avec un index, puisqu'il y a un numéro 0, il y a 7 volumes et un numéro 0, avec un index qui permet de retrouver énormément de références au cinéma. L'édition Quarto des œuvres de Debord, qui fait presque 2000 pages, où on trouve également chez Gallimard, donc essentiellement, c'est chez Fayard. Il y a les œuvres cinématographiques complètes dont Olivier Assayas a assuré la publication chez Gaumont en 3 DVD. Et puis, évidemment, les livres dont vous êtes les auteurs. C'est d'abord ce catalogue chez Gallimard et la BNF, Guy Debord, un art de la guerre, donc d'Emmanuel Guy et Laurence Lebras. L'exposition, je le rappelle, se termine le 13 juillet, donc on a le temps d'aller le voir. Également de Emmanuel Guy avec Fabrice Flahuté et Fabien Danessy, La fabrique du cinéma de Guy Debord chez Actes Sud. Le livre de Cécile Guilbert pour Guy Debord, dans la collection de l'Infini chez Gallimard, ainsi que celui de Stéphane Zagdanski, même éditeur, Debord ou la diffraction du temps, et puis le livre de Olivier Assayas, Une adolescence dans l'après-mai, lettre à Alice Debord au cahier du cinéma. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, c'est un ouvrage du photographe Émile Savitri, un récit photographique paru chez Gallimard, et j'ai invité pour en parler Carole Horouette, puisqu'il s'agit d'un film qui n'a pas d'existence, qui a été commencé, qui a été tourné en partie, puis interrompu, de Marcel Carné, écrit par Jacques Prévert. Et on sait que Carole Horouette est la grande spécialiste de Prévert, puisque récemment elle est venue parler justement des dessins de Prévert, et puis aussi de plusieurs livres. Enfin, elle connaît tout sur Prévert, et elle a écrit d'ailleurs le texte qui accompagne ce recueil de photos. C'est un texte très intéressant, car cette fleur de l'âge, donc ce film de Carné et Prévert, tourné à Belle-Île, n'a jamais vu le jour, mais on, grâce à ces photographies d'Émile Savitri, 600 photographies, mais il n'y en a pas 600 dans le livre, il y en a une soixantaine, donc de chez Gallimard, on peut voir évidemment toutes ces comédiens, on voit Carné, on voit Prévert, on voit Anouk Aimé, on voit Arletty, on voit Pierre Brasseur, enfin c'est Paul Meurice, pardon. Donc c'est tout à fait fascinant. Carole Horouette, qui est ce Émile Savitri qui est disparu maintenant, qui est né en 1903, qui faisait partie un peu du réalisme poétique en photographie, c'est-à-dire les Doineaux, les Brassailles, les Willy Ronis?
Émile Savitri, oui, c'est un peintre au départ, et c'est un peintre qui est devenu photographe dans les années 30 et qui a rencontré Jacques Prévert vers 1930 et qui a collaboré avec lui pour la première fois en fait en 1936 pour le groupe Octobre, et qui a photographié le tableau des merveilles, la pièce que Prévert a adaptée de Cervantes et qui était mise en scène par Jean-Louis Barrault. Donc en fait leur premier contact, leur premier travail date de 1936, et Savitri par la suite est devenu également photographe de plateau, de tournage, et il a notamment photographié des films sur lesquels Prévert a travaillé. Le soleil a toujours raison, Lumière d'été, Les portes de la nuit, par exemple. Et il a donc été le photographe de plateau de La fleur de l'âge.
Alors, Carole Horouette, dans votre texte très instructif, on apprend donc qu'il y a eu en fait deux projets Fleur de l'âge. Il y avait d'abord un premier projet dans les années 30 que Prévert avait écrit. Et puis finalement, le film a été tourné, mais jamais terminé, en 1947. Mais ce premier projet, donc, c'était à l'époque où, à peu près à l'époque où Carné et Prévert commençaient à collaborer sur Génie,
leur premier film ensemble. Oui, c'est tout à fait le début de leur collaboration. Alors ce premier projet, c'est L'île des enfants perdus. Qui est en fait suscité par les manifestations et les évasions des jeunes bagnards dans les pénitenciers, et notamment dans le pénitencier de Belle-Île. Et en 1934 à Belle-Île, les jeunes détenus se révoltent, s'évadent dans l'île, Et en fait, les habitants de l'île et les touristes vont se livrer à ce que Prévert appelle une chasse à l'enfant. Et cette manifestation, enfin cette rébellion et puis cette chasse à l'enfant, évidemment, révolte Prévert, qui écrit une chanson, Chasse à l'enfant, qui...
Cosma en fait la musique,
dont
d'ailleurs.
Cosma fait la musique.
Qui sera plus tard, enfin, qui était le musicien aussi, attitré de Carnet et Prévert.
Et puis de la Fleur de l'Âge. Et puis, il prend position également dans la presse et il décide de faire éclater sa révolte de manière beaucoup plus construite et conséquente en écrivant un scénario. Et ce scénario, c'est L'île des enfants perdus, qui traite de ce thème des bagnes pour enfants.
Vous évoquez aussi dans votre texte une autre révolte dans une maison de redressement de jeunes filles à Boulogne-Billancourt où des gens comme Brunius, ce grand
Brunius,
écrivain,
collaborateur,
qui travaillait sur les... qui acteur aussi chez Renoir, et puis Jean Roujol, le comédien, et Simone de Beauvoir en parle dans ses mémoires de cette révolte aussi. Donc c'est un sujet extrêmement fort.
Oui,
pour cette
un sujet extrêmement fort, extrêmement sensible. Et il y a quand même beaucoup d'artistes, notamment, qui se sont mobilisés à l'époque. Simone de Beauvoir, elle en parle dans son autobiographie qui est beaucoup plus tardive, La force de l'âge. Donc, et suite à cette révolte du pénitencier de Billancourt, Prévert va écrire un très très long article dans La Flèche à la fin de l'année 36.
Donc ce film est interdit par la censure, ce projet, interdit par la censure, mais Prévert qui persévère, Prévert persévère. Donc après la fin de la guerre, en 1946, il reprend ce projet. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Daniel Darrieux, parce que Daniel Darrieux devait jouer dans cette première version. Mais c'est Arletty maintenant qui est là, qui est d'ailleurs interdite sympathie pour la collaboration, elle était interdite de jouer, mais là,
elle revient sur les écrans. C'est grâce à Arletty que le projet revoit le jour, puisque c'est un producteur qui s'appelle Nicolas Vondas, qui veut absolument faire revenir Arletty à l'écran, et qui va donc la trouver, et qui lui demande quelles seraient ses conditions pour revenir à l'écran, parce qu'elle est évidemment, elle a été un petit peu refroidie par la situation, et elle n'est pas très très emballée. Et elle réfléchit, et elle pense que, elle explique à Vondas qu'en fait, elle veut bien revenir à l'écran, mais à une condition, c'est qu'elle retravaille avec sa même équipe. Et sa même équipe, c'est l'équipe des Enfants du Paradis. Et Vondas arrive à réunir à nouveau cette équipe. Cette équipe, c'est bien évidemment Carnet, c'est bien évidemment Prévert, mais c'est aussi Trôneur, le décorateur, Cosma, le compositeur, Hubert, le chef opérateur,
Maillot
pour les costumes. Voilà. Donc Vondas arrive à reformer cette équipe des Enfants du Paradis et Arletty est d'accord pour revenir sur les écrans. Simplement, il y a une condition importante, c'est que Prévert doit réécrire son scénario. C'est-à-dire que la première version, L'île des enfants perdus, va se transformer en La Fleur de l'Âge. Et on va dire que les grandes différences sont les suivantes. Premièrement, il doit modifier le rôle de la toute jeune fille qui était prévue pour Daniel Darrieux, parce que Arletty, à l'époque, a 49 ans. Donc, il crée un personnage, une femme d'âge plus mûr. Il ajoute aussi toute une bande de Parisiens décadents pour que le scénario soit un petit peu moins noir. C'est une demande du producteur. Alors Prévert n'avait quand même pas tellement envie d'aller dans ce sens. Mais comme c'était la condition, il a accepté de faire cette concession, tout en disant quand même à Vondas, on ne va tout de même pas mettre une boîte de nuit dans un pénitencier. Et puis, il accepte aussi qu'aucune scène ne soit tournée à l'intérieur du pénitencier, qu'il n'y ait donc pas de scène trop violente et trop crue, ce qui est une autre des conditions pour que le projet voie le jour.
Alors la couverture du livre de chez Gallimard, c'est une merveilleuse photo d'Anouk Aimée qui avait 15 ans.
En fait, elle a fêté ses 15 ans la veille du début du tournage, c'est-à-dire le 28 avril 1947. Donc elle avait tout juste 15 ans.
Et le film s'arrête pour quoi alors ?
Le film s'arrête pour beaucoup de raisons, c'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment accumulé tout un tas de petites catastrophes. Il y a eu le climat, déjà, qui a fait prendre beaucoup de retard au tournage.
L'argent, évidemment.
Évidemment, de fait, l'argent. Et puis, tout un tas d'anecdotes. Il y avait, par exemple, dans le film, un chien qui avait été dressé pour jouer avec Paul Meurice. Et puis, lors de la première scène, le chien a été atteint d'une paralysie foudroyante. Donc, dresser un autre chien, etc. Mais c'est pour dire qu'en fait, il s'est passé beaucoup d'événements de ce type et que tout cela a contribué à faire prendre du retard au tournage. Et au final, évidemment, à ce que le tournage s'arrête fin juillet.
Et on a perdu le négatif, on a tout perdu. Apparemment, sauf donc ces 600 photos dont on en voit 60 dans ce livre donc de Émile Savitry, le photographe. Très belles photos. Donc dans ce livre, un récit photographique chez Gallimard, préfacé par Carole Rouet, avec aussi un texte très intéressant sur le photographe lui-même. C'était Projection privée, une émission de Michel Simon, à la réalisation Laetitia Coya, la prise de son est de Catherine Déreté. La préparation a été faite par Sylvia Favre. Vous pouvez la retrouver pendant 1000 jours sur franceculture.fr et la télécharger pendant un an. Dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre par Mathieu Garrigou-Lagrange.